Sainte Thérèse de Lisieux, missionnaire, c'est le thème de la conférence de Mgr Guy Gaucher, ancien évêque auxiliaire de Bayeux et Lisieux, décédé en 2014. Thérèse et la mission, Sainte Thérèse de Lisieux, missionnaire, Mgr Guy Gaucher.
Nous commencerons par la lecture d'un passage d'une lettre de Thérèse à l'un de ses frères missionnaires, l'abbé Roulant, missionnaire en Chine. Une lettre de mai 1897, 9 mai 1897, la lettre 226, qui dit entre autres: « Si, comme je le crois, mon père et ma mère sont au ciel, ils doivent regarder et bénir le frère que Jésus m'a donné. Ils avaient tant désiré un fils missionnaire. On m'a raconté qu'avant ma naissance, mes parents espéraient que leur vœu allait enfin se réaliser. S'ils avaient pu pénétrer le voile de l'avenir, ils auraient vu que c'était en effet par moi que leur désir serait accompli. Puisqu'un missionnaire est devenu mon frère, il est aussi leur fils. Et dans leur prière, ils ne peuvent séparer le frère de son indigne sœur. » Ce texte est évidemment très intéressant, car nous voyons que la prière des parents Martins a été exaucée d'une manière tout autre qu'ils pouvaient espérer. Ils avaient voulu un fils missionnaire, ils ont perdu leurs deux garçons, et voilà que, comme le dit Thérèse, leur désir s'est accompli par leur fille, par moi, mais pas de la manière dont elle l'explique ici. C'est-à-dire que s'ils ont été exaucés, ce n'est pas en ayant un fils missionnaire qui est l'abbé Roulant, qui est devenu le frère de leur fille, mais c'est parce que Thérèse elle-même, chose absolument inattendue et imprévisible, est devenue patronne universelle des missions. Comme quoi, nos prières sont exaucées après notre mort de façon inattendue. En effet, commençons par deux dates fondamentales. Le 14 décembre 1927, le pape Pie XI, appelé le pape des missions, déclare Thérèse de Lisieux patronne à titre spécial de tous les missionnaires, hommes et femmes, et aussi des missions existant dans tout l'univers. Patronne principale à l'égal de saint François Xavier. Dans les milieux chrétiens, nous sommes habitués à entendre cette réalité, ce texte, mais regardons quand même un instant le paradoxe incroyable qu'il contient. À l'égal de saint François Xavier, ce missionnaire jésuite, patron des missions, mort à 46 ans aux portes de la Chine, qui a usé sa vie à cette mission active dans des conditions très difficiles, à égalité avec une jeune carmélite morte inconnue dans son Carmel qui a si peu voyagé et qui a si peu exercé un apostolat direct. Il y a déjà un premier enseignement extrêmement fort sur ce qu'est la mission dans l'Église. La mission de l'Église n'est pas enfermée dans ce que nous pourrions appeler un apostolat direct sur le terrain. Elle est infiniment plus vaste, elle s'origine dans l'union à Dieu, dans la prière, dans la vie contemplative. Nous y reviendrons. Deuxième date importante, 24 juillet 1941. Fondation à Lisieux du séminaire de la mission de France. On lit en septembre 1940 dans les carnets du cardinal Suard: je sens qu'une partie de la mission de la Sainte est à réaliser. Quand l'œuvre de la mission de France aura été commencée, la petite sainte sera dans sa vraie voie, parce que là, il n'y a pas de terme aux générosités divines. Puissais-je travailler efficacement à cette œuvre et amener Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à y travailler. Et je vous renvoie au gros livre qui vient de paraître sur le cardinal Suard du père Vinatier, qui nous montre les rapports du cardinal avec Thérèse, qui se sont approfondis évidemment lorsqu'il était évêque de Bayeux-Lisieux. Donc Thérèse, patronne des missions au sens des missions extérieures, des missions à travers tout l'univers, mais aussi patronne de ce qu'on a découvert au moment de la Deuxième Guerre mondiale, patronne des missions de l'intérieur, la découverte que la mission n'est pas seulement d'évangéliser des peuples lointains, l'Afrique, la Chine, mais aussi l'annonce de Jésus-Christ, là, tout près de nous, là où nous sommes, dans un monde déchristianisé, la découverte de la mission de France, la mission de l'intérieur, qui va être si importante à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons examiner rapidement quelques moments clés de la prise de conscience et de l'activité missionnaire de Thérèse. Car chez elle, tout part de la vie et donc nous devons voir les étapes rapidement de sa vocation missionnaire. Dans son enfance, il est clair que Thérèse a baigné par sa famille à Alençon, ensuite au Buissonnet, puis à l'école, dans la grande expansion missionnaire du 19e siècle, l'épopée missionnaire, qui d'ailleurs s'est confondue plus ou moins avec l'épopée coloniale, avec tous les problèmes que ça a posé ensuite. Mais enfin, il ne faut pas oublier toute cette jeunesse qui est partie à travers le monde, Afrique, Amérique du Sud, Asie, et qui souvent y a laissé la vie. Thérèse sera très frappée par le jeune Théophane Bénard, qui mourra au Vietnam, par le père Mazel, par le père Nampon et tant d'autres. Et on ne peut pas oublier la grandeur et les sacrifices qui ont été impliqués dans cette mission. Thérèse a vécu toute cette atmosphère de l'épopée missionnaire du 19e siècle. Un des moments fondamentaux de sa prise de conscience, c'est la conversion de Noël 86. Cette conversion qui fait sortir Thérèse d'elle-même, après tous les problèmes affectifs qu'elle a eus, la perte de ses mères successives et la guérison de son cœur la nuit de Noël, cette guérison n'est pas que pour Thérèse, ou plutôt Thérèse dégagée de tous ses problèmes, de tout ce qui l'empêchait de sortir d'elle-même, Thérèse trouvant sa pleine stature d'adolescente à ce moment-là, est poussée vers la mission. C'est tout à fait biblique, nous savons que dans la Bible, toute vocation est pour une mission. Voici ce qu'elle dit. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. » La charité entre dans son cœur. Et comme toutes les grâces arrivent au bon moment, c'est quelque temps après, un dimanche de juillet 1887, à la cathédrale Saint-Pierre, à la fin de la messe, dépasse de son missel une image du Christ en croix, et Thérèse est vivement frappée par ce sang qui tombe d'une de ses mains divines, et elle résolut de se tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir cette divine rosée afin de la répandre sur les arbres. Et le cri du Christ « J'ai soif » retentit en elle, et c'est des soifs. Elle aussi a soif des âmes, et elle veut lui donner ses âmes. Comme elle le dit, ce n'était pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. C'est à ce moment-là, là encore, tout arrive en son temps, qu'elle entend parler de l'assassin Pranzini, qui a tué 3 femmes avenue Montaigne et dont toute la France parle. Et Thérèse va immédiatement mettre en œuvre ce désir de sauver les grands pécheurs. Vous savez qu'elle va prier, qu'elle va faire des sacrifices pour lui et qu'elle aura la joie in extremis de le voir, alors qu'il marche vers la guillotine, embrasser le crucifix qu'il demande à l'aumônier. Et ainsi Thérèse a obtenu le signe qu'elle demandait, qui correspondait parfaitement à l'image qu'elle avait contemplée. J'avais obtenu le signe demandé, ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Quelle ineffable réponse! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Donc l'épisode Pranzini, son premier enfant, dit-elle, va la pousser, avec encore plus d'ardeur, à entrer au Carmel le plus rapidement possible. Car si elle veut aller au Carmel, c'est pour prier pour les pécheurs. Et là, il faut voir que sa vocation est proprement missionnaire. Tout de suite après, elle entreprend son pèlerinage à Rome, en novembre 87, et Geneviève, sa sœur Céline, sœur Geneviève, nous donne un petit renseignement très précieux. Lors de notre voyage à Rome, Thérèse n'avait encore que 14 ans. Ayant parcouru quelques pages d'annales de religieuses missionnaires, elle interrompit bientôt sa lecture et me dit « Je ne veux pas en lire plus. J'ai déjà un désir si violent d'être missionnaire, que serait-ce si je la vivais encore par le tableau de cet apostolat ? Je veux être carmélite. » Ceci est bien net, Thérèse n'entre pas au Carmel, ni par refuge, ni par simple désir de la prière. Thérèse entre au Carmel pour être davantage missionnaire. Car on peut imaginer que si elle n'était pas entrée au Carmel de Lisieux, elle serait entrée dans une congrégation missionnaire. Au cours du voyage à Rome, un deuxième élément va la pousser à cette vie de la mission, c'est la découverte des prêtres. Elle disait que un des buts du Carmel, qui est, enfin, même un des axes fondamentaux du Carmel, qui est de prier pour les prêtres, jusqu'alors elle ne le comprenait pas. Prier pour les grands pécheurs, comme Pranzini lui était une évidence, mais pourquoi prier pour les prêtres, qu'elle considérait jusqu'à maintenant comme des anges. Et Céline, elle, les considérait comme des dieux. Mais lors du voyage à Rome, toutes ces illusions tombent, et ces demoiselles Martin découvrent que les prêtres sont des hommes. Ne nous étendons pas là, mais enfin, peut-être que c'est au cours des repas assez plantureux qu'elle faisait dans les hôtels, de ce pèlerinage qui pourtant devait être de pénitence, que quelques propos de table, ou simplement le bon coup de fourchette des prêtres normands ou d'autres, l'avaient un peu désabusée, sans parler de leurs défauts, de leurs tics qui ont pu les amuser, ou d'autres choses encore que nous ne pouvons qu'imaginer. Quoi qu'il en soit, elle dit que désormais elle comprend la vocation du Carmel qui est de prier pour les prêtres. Et ceci ne lui déplaît pas car elle va pouvoir décupler son influence spirituelle. En effet, prier pour les prêtres qui sont des apôtres, c'est devenir apôtre des apôtres, comme Marie-Madeleine, appelée ainsi par la liturgie orthodoxe. Apôtre des apôtres, Thérèse le sera en priant pour ses apôtres. Et ainsi, sa tâche lui apparaîtra encore plus vaste et plus grande. La voici maintenant au Carmel. Dans une lettre de 1889, la lettre 74, au moment où elle va se préparer à son engagement, voici ce qu'elle écrit à sa sœur Agnès. « C'est incroyable comme mon cœur me paraît grand quand je considère tous les trésors de la terre, puisque je vois que tous réunis ne pourraient le contenter. Mais quand je considère Jésus comme il me paraît petit, je voudrais tant l'aimer, l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. Mon seul désir est de faire toujours la volonté de Jésus, d'essuyer les petites larmes que lui font couler les pécheurs. Oh, je ne veux pas que Jésus ait de la peine. Le jour de mes fiançailles, je voudrais convertir tous les pécheurs de la terre, elle a souligné tout, et sauver toutes les âmes du purgatoire. » L'agneau de Jésus, c'est-à-dire sœur Agnès, va rire en voyant ce désir du petit grain de sable, c'est-à-dire Thérèse. Je sais que c'est une folie, Et pourtant, je voudrais qu'il en soit ainsi, afin que Jésus n'ait pas une seule larme à verser. Thérèse est déjà consciente à ce moment-là que ses désirs peuvent apparaître comme une folie. Mais nous verrons que toutes ces folies sont des grandes sagesses et qu'elles vont se réaliser. Arrive le 8 septembre 1890, elle a 17 ans et demi, et elle porte sur elle, le jour de sa profession, un billet dans lequel il est dit « Jésus fait que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée, que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées. » Et elle a souligné « toutes », car Thérèse est toujours absolue, et il faut que ce soit toujours une globalité, tous ou toutes. À chaque étape de l'accueil de l'amour de Jésus, à chaque étape, Thérèse se donne elle-même. Chaque fois, elle fait l'offrande d'elle-même. Après cette offrande de profession, 5 ans plus tard, ce sera l'offrande d'elle-même à l'amour miséricordieux lorsqu'elle a découvert la petite voie de l'enfance et de l'amour. Dans cette offrande à l'amour miséricordieux, si importante, voici ce qu'elle dit au début. « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. » Formule qui revient très souvent chez elle. « Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et délivrant celles qui sont dans le purgatoire. » C'est le but même de l'acte d'offrande. Toujours la mission, toujours le souci de l'universalité, le ciel, la terre, le purgatoire. Une année après, dans une autre prière de consécration à la Sainte Face cette fois, Thérèse, au passage, dit que avec les deux sœurs avec qui elle a fait cette consécration, Geneviève et Sœur Marie de la Trinité, qui portent toutes les deux le nom de la Sainte Face à l'époque, elles veulent recueillir les pleurs de Jésus qui sont des diamants et avec ces diamants acheter les âmes de nos frères. Langage de Thérèse, langage d'époque, mais qui est révélateur toujours dans chaque prière, ce souci de sauver les âmes, comme elle le dit. La mission du Carmel. Elle précise bien que l'objectif même de son entrée dans ce qu'on appelait son examen canonique, c'est-à-dire non pas un examen comme on les imagine, mais simplement la réponse aux questions fondamentales qui lui sont posées. Pourquoi êtes-vous venu au Carmel ? Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré au pied de Jésus hostie dans l'examen qui précéda ma profession le 2 septembre 1890. Je suis venu pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes, et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Nous aurons à revenir sur cette souffrance tout à l'heure. Thérèse est là dans l'axe fondamental de la fondatrice, la réformatrice du Carmel, Thérèse d'Avila. Rappelons-nous que si Thérèse d'Avila quitte le grand couvent de l'Incarnation pour fonder le petit Carmel de Saint-Joseph à Avila, c'est parce que le monde est en feu, parce que les chrétiens se déchirent dans les guerres de religion, et qu'elle veut aider les combattants, comme elle le dit, c'est-à-dire les prédicateurs, les théologiens, les aider en vivant elle-même l'Évangile dans des conditions de pauvreté, de simplicité, dans un petit groupe, dans le silence et la prière, en vivant à fond la règle du Carmel, qui est de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et ainsi, faisant tout ce qu'elle peut, elle aidera à la mission. Et ceci sera renforcé quelques années plus tard, lorsque, écoutant un missionnaire revenant des Amériques, elle entendra avec beaucoup d'émotion et de larmes que des milliers d'Indiens se perdent là-bas faute de véritables prédicateurs. Alors elle va encore renforcer sa prière et l'austérité de sa vie dans le sens de participer aux souffrances du Christ pour sauver le monde. Thérèse de Lisieux, elle, dira dans son dernier manuscrit Je veux être fille de l'Église comme l'était notre mère Sainte Thérèse et prier dans les intentions de notre Saint-Père le Pape, sachant que ces intentions embrassent l'univers. Voilà le but général de ma vie. Remarquons toujours que cette vie limitée dans cette petite cellule, dans ce petit monastère, veut toujours être au niveau de l'univers, au niveau de l'ensemble du monde. Elle le dit dans une autre lettre, la lettre 189, à un de ses frères spirituels, « Je serai heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. C'est dans ce but que je me suis faite carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, c'est-à-dire l'ayant choisi, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence, comme Sainte Thérèse. » Tout cela est bien clair. Nous reviendrons sur ces textes. « J'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence. » D'ailleurs, elle dira « par la prière et le sacrifice, en s'unissant au Sauveur par le don de sa vie. » Et c'est là que nous touchons peut-être le nœud de cette prière missionnaire. Comment cela peut-il se faire qu'une vie cachée, qu'une vie de prière, soit missionnaire? Comment peut-elle toucher les êtres? Eh bien, Thérèse nous l'exprime dans un de ses derniers écrits, même à la fin du manuscrit C, de juin-juillet 1897, où elle fait une découverte, pendant son action de grâce, comment sa prière peut être universelle et comment elle peut avoir une action dans le monde. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre, un matin pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission, cette mission universelle. Il m'a fait comprendre cette parole du Cantique des Cantiques. « Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. » « Ô Jésus, » dit Thérèse qui passe à la prière, « il n'est même donc pas nécessaire de dire, en m'attirant, attirez les âmes que j'aime. » Cette simple parole « attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. Il y a là un point capital. Lorsqu'on demande aux carmélites de prier à des intentions, on se demande comment elles vont faire. Et évidemment, elles le font, mais peut-être pas de la manière dont nous l'imaginons. Thérèse dit elle-même, « Depuis que j'ai deux frères spirituels, ces deux frères missionnaires sur lesquels nous reviendrons, l'abbé Bélière et l'abbé Roulant, et mes petites sœurs les novices, dont elle est responsable, si je voulais demander pour chaque âme ce qu'elle a besoin, et bien le détailler, les journées seraient trop courtes, et je craindrais fort d'oublier quelque chose d'important. » Et il est certain que si les carmélites passaient leur temps à détailler les intentions que le monde entier peut leur donner, les journées seraient bien trop courtes et elles risqueraient aussi d'oublier quelque chose d'important. Alors, est-ce qu'elles oublient les intentions données? Non. Mais, c'est là qu'il ne faut pas chosifier la prière, c'est que l'offrande elle-même, dans la prière, dans leur vie concrète, comme nous le dit Thérèse, a pour conséquence naturelle d'attirer à leur suite tous ceux pour qui elles prient. Attirez-moi, nous courons. Ce n'est pas en énumérant des intentions de prière à longueur de journée que nous prions pour le monde, car ce que je dis des carmélites peut être valable pour tout chrétien. C'est en suivant le Christ et en donnant notre vie au Christ. Attirez-moi, nous courons. C'est dans l'union au Seigneur que nous englobons le monde entier, puisque c'est la mise en action de la communion des saints et du corps du Christ. Nous sommes dans le corps du Christ, là où est la tête, les membres sont. Et comme la prière du Christ est une prière universelle, notre prière entre dans cette prière. Et la prière, comme me dit Silouane, le moine du Mont Athos, la prière, c'est verser le sang de son cœur. Donc la prière, ce n'est pas un temps de prière et d'attention qui est donné au Seigneur à certains moments de la journée, c'est l'offrande totale de la vie, aussi bien dans la prière que dans le sacrifice. Et cette manière de dire « attirez-moi, nous courons » appelle une réflexion sur les fameuses roses de Thérèse. Et c'est peut-être le moment de le dire. Ces roses qui sont si fondamentales dans l'iconographie thérésienne et qui parfois agacent, « je ferai tomber une pluie de roses sur le monde » selon une de ses paroles, eh bien ces roses prêtent souvent un grand contresens. En tout cas, elles ne sont peut-être pas ce qu'on imagine. C'est dans le manuscrit B de septembre 96 que Thérèse nous donne la clé de la signification de ces roses. Toute petite, Thérèse, comme beaucoup d'enfants à l'époque, avait jeté des roses, des pétales de roses sur le Saint-Sacrement qui passait. Et ce geste, elle l'avait gardé encore longtemps, puisque elle jettera au crucifix qui est au centre, grand crucifix qui est au centre du cloître du Carmel de Lisieux, l'été avec ses novices, des roses effeuillées, non pas des roses fanées comme elle dit, mais des roses effeuillées, elles effeuillaient des roses en plein éclat, pour les jeter au crucifix. Évidemment, ces roses ayant touché le grand crucifix retombaient sur le sol. Et Thérèse effeuillera aussi des roses sur son crucifix, c'est une de ses dernières photos, qui a été prise par Céline, Thérèse sur un lit roulant qui a été sorti sous le cloître, cette dernière photo vivante. Et enfin, elle écrira des poésies, entre autres une très très belle poésie sur la rose effeuillée. Alors lorsque Thérèse dit « je jetterai sur le monde une pluie de roses », ces roses qui ont été effeuillées représentent, comme elle le dit, ses petits sacrifices, ses actes d'amour, tout ce qu'elle peut offrir au Seigneur dans une journée qui paraît insignifiant, mais ces roses, elle les jette au crucifix. Et pour que ces roses, ces sacrifices, ce que fait Thérèse, retombent sur le monde et puissent être efficaces, il faut qu'elles aient touché le crucifix. C'est-à-dire que sans l'union au Christ, qui est le seul sauveur, les actes de Thérèse seraient parfaitement dérisoires, n'auraient aucun sens. Mais lorsque les petites choses sont faites par amour et offertes au Christ, eh bien, le Christ fait retomber une pluie de grâce sur le monde. C'est une manière de s'exprimer, mais je crois que c'est extrêmement important de voir que là s'exprime toute une théologie d'abord de la seule médiation de Jésus et ensuite de notre collaboration à sa médiation. La vie de Thérèse, unie au Christ, peut devenir efficace pour le monde. La vie de Thérèse toute seule, jetant elle-même directement des roses, serait parfaitement dérisoire et sans intérêt. Et on en a bien conscience. C'est du même style que le « attirez-moi, nous courons ». Entre ce singulier et ce pluriel, il y a toute la vie de la Carmélite. Ces petits gestes, mon Dieu, ils sont tout simples. Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère! C'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces. Lettre 164. Thérèse vit ainsi dans son Carmel, dans ce Carmel qui lui-même est missionnaire, car n'oublions pas que le Carmel de Lisieux a fondé en 1861 le Carmel de Saïgon, qui fondera à son tour le Carmel d'Hanoï en 1895, le Carmel de Hué en 1909, et comme ça, toute une chaîne de Carmel, environ une vingtaine, en Asie. Et Thérèse, à certains moments, se demandera si elle ne partira pas elle-même, car on demande des religieuses pour aller dans ces carmels, et comme elle le dira, ma vocation missionnaire a été reconnue, je suis prête à partir. Mais en novembre 96, lorsque la question se posera d'une manière peut-être plus aiguë, on va faire une neuvaine, car Thérèse est malade, pour que Thérèse guérisse, et au cours de la neuvaine, Thérèse est encore plus malade, et elle en tire la conclusion qu'elle ne partira pas effectivement à Saïgon ou à Hanoï. Mais que sa vocation missionnaire, au contraire, va s'intensifier, même si elle ne peut pas la concrétiser sur le terrain. Divers événements vont développer, concrétiser cet appel de plus en plus fort à la mission. C'est en octobre 95 que Mère Agnès, sa prieure, lui donne un frère spirituel qui sera Père Blanc plus tard, pour l'instant il est missionnaire du Saint-Esprit, L'abbé Maurice Bellière, 21 ans, qui va se destiner ensuite à partir en Afrique. Thérèse voit un signe d'amour du Seigneur dans ce don d'un frère spirituel missionnaire, puisqu'elle avait perdu deux petits frères, et elle va rédiger une prière pour l'abbé Bellière. C'est le premier contact qu'elle prend avec lui, car il est séminariste, il va partir à l'armée, et il confie sa vocation au Carmel de Lisieux en demandant une sœur qui prie pour lui spécialement. Et ensuite, il ne donnera plus guère de nouvelles. Thérèse ne lui écrit pas, c'est la prieure, Mère Agnès, qui va lui écrire, mais Thérèse va lui faire parvenir cette prière. Ô mon Jésus, je vous remercie de combler un de mes plus grands désirs, celui d'avoir un frère, prêtre et apôtre. Je me sens bien indigne de cette faveur. Cependant, puisque vous daignez accorder à votre pauvre petite épouse la grâce de travailler spécialement à la sanctification d'une âme destinée au sacerdoce, je vous offre pour elle avec bonheur toutes les prières et les sacrifices dont je puis disposer. Je vous demande, ô mon Dieu, de ne pas regarder ce que je suis, mais ce que je devrais être et voudrais être, c'est-à-dire une religieuse tout embrasée de votre amour. Vous le savez, Seigneur, mon unique ambition est de vous faire connaître et aimer. Maintenant, mon désir sera réalisé. Je ne puis que prier et souffrir, mais l'âme à laquelle vous daignez m'unir par les doux liens de la charité ira combattre dans la plaine pour vous, ira combattre dans la plaine pour vous gagner des cœurs, et moi, sur la montagne du Carmel, je vous supplierai de lui donner la victoire. Divin Jésus, écoutez la prière que je vous adresse pour celui qui veut être votre missionnaire. Gardez-le au milieu des dangers du monde. Faites-lui sentir de plus en plus le néant et la vanité des choses passagères et le bonheur de savoir les mépriser pour votre amour. Que déjà son sublime apostolat s'exerce sur ceux qui l'entourent, qu'il soit un apôtre digne de votre cœur sacré. Ô Marie, douce reine du Carmel, c'est à vous que je confie l'âme du futur prêtre dont je suis une indigne petite sœur. Daignez lui enseigner déjà avec quel amour vous touchiez le divin enfant Jésus et l'enveloppiez de l'ange, afin qu'il puisse un jour monter au Saint-Autel et porter en ses mains le roi des cieux. Je vous demande encore de le garder toujours à l'ombre de votre manteau virginal, jusqu'au moment heureux où, quittant cette vallée de larmes, il pourra contempler votre splendeur et jouir pendant toute l'éternité des fruits de son glorieux apostolat. Thérèse de l'Enfant Jésus. L'abbé Bellière, 21 ans, ne pouvait pas imaginer ce que sa demande allait déclencher. C'est cette jeune sœur qui, en octobre 95, a découvert la voie d'enfance, qui s'est offerte à l'amour miséricordieux et qui décide de donner toutes ses prières et tous ses sacrifices pour lui. Quand on sait où on est Thérèse de Lisieux à ce moment-là, on est un peu effaré de penser à cela. Le 30 mai 1896, quelques mois plus tard, la prieure est devenue Mère Marie de Gonzague. Elle appelle Thérèse dans son bureau, qui y va le cœur battant, car elle n'a jamais été appelée comme ça par la prière. La prieure la fait asseoir, chose tout à fait inhabituelle, et elle lui dit, voilà, je vais vous confier un frère qui va partir en Chine, un prêtre, l'abbé Roulant. Thérèse allègue qu'elle a déjà un autre frère spirituel et qu'il y a bien d'autres sœurs dans la communauté, mais la prieure insiste, et ainsi son désir d'avoir des frères missionnaires s'accroît encore. Et elle y voit aussi une délicatesse du Seigneur. Elle avait eu deux petits frères morts en bas âge. Elle va avoir deux grands frères missionnaires. Le père Roulant la verra au parloir, puisqu'il viendra célébrer une de ses premières messes au Carmel de Lisieux, avant de prendre le bateau et de partir pour la Chine, dans la province du Sichuan. Et Thérèse aura une carte de cette région chinoise, et sur lesquels elle épinglera les lieux où se trouve son frère, ils correspondront. Et ceci va encore attiser le désir de Thérèse. Cette fois, c'est plus l'Afrique, c'est la Chine. Et donc Thérèse, au moment où elle va entrer dans sa retraite de 1896, la retraite annuelle qu'elle fait toute seule, va sentir en elle de plus en plus de grands désirs. À 22 ans, Thérèse, ayant élargi encore sa vision et se sentant responsable de la mission de ses deux frères spirituels, éprouve comme une espèce de crise de vocation. C'est ce grand texte que tout le monde connaît, mais qu'il faut reprendre rapidement ici pour sentir combien Thérèse, dans cette dernière année de sa vie, dans les deux dernières années de sa vie, voit s'accroître son désir missionnaire à un niveau universel. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Et cependant, je sens en moi d'autres vocations. Quelle vocation? La vocation de prêtre, la vocation de diacre, la vocation de docteur, la vocation de prophète, la vocation d'apôtre. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Thérèse voudrait être martyr comme l'a été Théophane Vénard, comme l'a été le Père Mazel et tant d'autres. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Car y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. En effet, on pourrait se demander si cette jeune carmélite qui écrit cela dans sa cellule n'est pas un peu prise de mégalomanie, car elle veut être tout. Et comment peut-on réaliser ce désir d'être tout lorsqu'on est là, inséré tout simplement dans les limites de sa vie concrète? Thérèse souffre de grands désirs à l'oraison, et de ces grands désirs, elle souffre beaucoup, et comme toujours, elle ouvre la parole de Dieu pour chercher une solution, et elle tombe sur le passage de saint Paul dans la première aux Corinthiens, qui devrait la décourager, car saint Paul dit que dans l'Église, eh bien, chacun a sa place, et que quand on est apôtre, on ne peut pas être à la fois prophète, docteur. L'Église est composée de différents membres, et l'œil ne peut pas être la main. Évidemment, la réponse est claire, dit Thérèse, mais ceci ne comble pas du tout ses désirs, et même vont en sens inverse. Mais comme elle est habituée à ne jamais se décourager, elle continue sa lecture. Et elle trouve que la voie la plus excellente, saint Paul va la montrer, c'est la voie de l'amour, la voie de la charité. Alors, par une sorte d'intuition, elle découvre sa place. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin !» En septembre 96, Thérèse a 22 ans, « Enfin, je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Thérèse vient de trouver la clé de sa vocation, et on peut dire que c'est la clé de la vocation de tous les chrétiens. Mais que va-t-elle faire? Va-t-elle partir en mission? Va-t-elle devenir docteur, prophète, martyr? Est-ce qu'elle va quitter son Carmel? Pas du tout. Ce qui est génial, c'est que ceci va ne changer en rien, ou plutôt va l'approfondir dans sa vie quotidienne. Sa vie quotidienne, c'est la vie au Carmel, dans la monotonie des tâches les plus simples, dans son travail auprès des novices. Car la Thérèse nous montre aussi que les désirs universels de sauver tous les hommes ne doivent pas l'affaire évadée de la communauté très concrète où elle est, sa communauté de Lisieux, où il faut qu'elle aime toutes les sœurs, même les plus revêches, même les plus difficiles. Personne ne doit rester en dehors de cet amour, c'est ce qu'elle dira dans sa découverte de la charité fraternelle. Il faut aimer même sœur Marie de Saint-Joseph, qui a un caractère impossible et qui quittera plus tard le Carmel, et même Thérèse de Saint-Augustin, fort bonne religieuse, mais que Thérèse, pour laquelle Thérèse n'a aucune affinité. L'amour va être le cœur de sa vocation parce qu'il est le cœur de la mission. La mission, ce n'est pas annexer les autres à nos idées ou à notre religion. La mission, c'est révéler l'amour du Père, l'amour trinitaire qui a été donné dans le Christ, qui est répandu par l'Esprit, pour que tous les hommes soient rassemblés dans cet amour. La mission, c'est le testament de Jésus du Jeudi Saint, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, où le Christ prie au moment de donner sa vie pour le monde, afin que tous les hommes soient rassemblés, qu'ils soient un, comme le Père et lui sont un. La mission, c'est l'unité mondiale, ce rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés. Il est évidemment juste dire que si cet amour trinitaire, non pas l'amour philanthropique que nous portons en nous-mêmes et qui est encore si limité, cet amour trinitaire est le cœur même de l'annonce évangélique et que sans lui, les martyrs n'ont aucun sens, les apôtres n'ont aucun sens et l'Église ne devient plus qu'une société comme les autres, avec ses péchés. Voici où en est Thérèse dans sa recherche de vocation, comment pourra-t-elle être vraiment missionnaire, alors que depuis quelques mois, depuis avril 1996, elle est entrée dans une grande épreuve intérieure. Cette grande épreuve intérieure, cette épreuve de la foi et de l'espérance dans laquelle elle a été plongée à Pâques 1996, dans laquelle elle a été commencée par être très déroutée car elle ne pouvait pas s'attendre à cette épreuve d'après ce qui avait précédé, va la faire avancer d'une toute autre manière dans la mission, c'est-à-dire cette mission de l'intérieur, si on peut dire, qui fera qu'elle sera patronne de la mission de France et patronne de tout ce grand mouvement de l'évangélisation du monde athée du 19e et du 20e siècle. Voici Thérèse plongée dans la nuit, assise à la table des pécheurs. Thérèse n'a pas perdu la foi, mais Thérèse éprouve à l'intérieur ce que elle ne voyait autrefois que de l'extérieur, ce qu'elle appelle les incrédules, les incroyants, peuvent vivre, à savoir qu'il n'y a pas d'espérance ou que la révélation évangélique n'est pas pour eux, ou elle est totalement ignorée, ou Dieu même n'existe pas. C'est la grande époque du combat de l'athéisme, des maîtres du soupçon qui remettent en cause toutes les réalités spirituelles. Or, Thérèse avait toujours vécu dans la foi claire et évidente, et voici que subitement, elle est dans le brouillard, elle est dans le tunnel, elle est face à un mur. Comment va-t-elle réagir? Eh bien, elle va s'identifier à ses frères incroyants pour qu'ils soient sauvés. Elle va accepter de rester dans la nuit, dans les brouillards, pour eux. Elle découvre avec plus de force qu'il ne s'agit pas de prier pour les pécheurs du haut de la forteresse du Carmel, mais qu'elle est de la même race qu'eux. Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière, elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi, ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés, que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. » Cette épreuve va durer jusqu'à la fin de la vie de Thérèse, jusqu'au 30 septembre 1897. Et elle aura un grand impact sur la vie intérieure de Thérèse, car la petite voie de la confiance et de l'amour va se trouver affrontée à cette nuit, sans parler de la maladie physique qui va aussi progresser de plus en plus. Et pour Thérèse, elle va être l'approfondissement de sa mission auprès du monde tel que nous le vivons, le monde de l'indifférence, le monde de l'athéisme, le monde dont la chrétienté a beaucoup plus pris conscience depuis cette nuit de la foi de Thérèse avec toute l'histoire du XXe siècle. Et nous en arrivons dans les derniers mois de Thérèse, où le moment où la maladie progresse, et au moment aussi où cette prise de conscience de l'élargissement universel de la mission de Thérèse se fait plus forte en elle. C'est la période des derniers entretiens avec ses sœurs à l'infirmerie. Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive, dit Thérèse dans son dernier manuscrit, ce petit cahier qu'elle va écrire en ses jours. Et elle va prendre de plus en plus conscience de sa mission posthume. En effet, comme elle l'avait dit, c'est incroyable comme mon cœur me paraît grand. Et à mesure que le temps passe, d'une part, elle continue à prier, à souffrir pour les missionnaires. Elle le dit, je marche pour un missionnaire, un jour qu'elle souffrait beaucoup dans le jardin. Pour les pauvres pécheurs, pour les besoins de toute l'Église, afin de jeter des fleurs à tout le monde, juste et pécheurs, j'offre tout cela. Et elle entrevoit que les limites de sa vie, à la 24 ans, elle va mourir. Qu'a-t-elle fait jusqu'à maintenant? Pratiquement rien aux yeux du monde. Et même concrètement, elle ne laisse rien. Elle entrevoit que ses immenses désirs de sauver le monde ne vont pas s'arrêter avec sa vie. Et, comme elle le dit dans un des entretiens, le 13 juillet, « Si vous saviez comme je fais de projets, comme je ferai de choses quand je serai au ciel, je commencerai ma mission. » Donc, révolution dans la conception du ciel chez Thérèse. Commencer sa mission après sa mort. Jusqu'alors, nous avions plutôt conscience de travailler pendant la vie et nous reposer lorsque nous mourrons. C'est la fameuse formule de requiescat in pace des enterrements et la grande paix des cimetières où là, tout le monde se repose en paix. Thérèse n'a pas cette idée-là. Il y a une grande unité entre l'Église. Il y a l'Église triomphante, il y a l'Église souffrante, l'Église du ciel et de la terre. Elle n'arrive pas à imaginer que ceux du ciel abandonneraient les pauvres qui sont encore en combat spirituel sur cette terre et qu'on se reposerait pendant que les autres travaillent. Donc, dit-elle, au ciel, il faudra travailler en union avec ceux qui continuent la lutte en bas, pour parler comme cela. Et au ciel, au contraire, la mission devient bien plus vaste car on n'est plus limité par le temps et l'espace. « Je descendrai, je reviendrai », promet Thérèse à ses sœurs. Et c'est pourquoi ce grand désir qu'elle porte en elle, elle veut le faire vérifier et elle va faire une neuvaine du 4 au 12 mars 1897, une neuvaine justement à Saint-François-Xavier, qui sera patron, qui est patron des missions, et pour que la neuvaine soit encore plus efficace, elle y met Saint-Joseph. Pourquoi elle fait cette neuvaine? Afin de faire du bien sur la terre après ma mort. Et comme elle raisonne toujours la même chose, de la même manière, Dieu a toujours comblé ses désirs. S'il met ce désir en moi, eh bien c'est qu'il veut le réaliser. Alors Thérèse en arrivera à cette phrase célèbre, ce 17 juillet, qui sera comme le résumé de son action posthume. Je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Là, la mission de Thérèse, au sens de donner sa petite voix aux âmes, recoupe cette mission universelle. La manière dont Thérèse va toucher le monde, ça sera de faire aimer Dieu comme elle l'a aimé. Alors là, c'est tout la question de comment l'a-t-elle aimé. Elle l'a aimé dans cette petite voie de l'enfance, c'est-à-dire Dieu est notre Père, et dans le Christ, nous pouvons devenir les enfants de Dieu, et avec une audace incroyable, tout obtenir de lui, vivre avec lui, et être vraiment ses enfants. Exemple de phrase d'audace incroyable, celle-ci. Il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel, parce que je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. Voici par exemple comment Thérèse envisage sa mission posthume. Et elle continue. Si le bon Dieu exauce mes désirs, et elle prie pour cela, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Union du ciel et de la terre. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Je ne veux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. Mais lorsque l'ange aura dit « le temps n'est plus », alors je me reposerai. Je pourrai jouir parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront entrés dans la joie et dans le repos. Mon cœur tressaille à cette pensée. Thérèse garde les yeux fixés sur la fin des temps, sur la parousie, ou alors oui, ce sera le repos pour tous après ce travail de la mission. Et c'est en ce sens que Thérèse va aller jusqu'au bout de sa vie, le 30 septembre 1997, offrant toutes ses souffrances, et Dieu sait qu'elles sont grandes, au plan spirituel, au plan physique, au plan de la destruction de sa propre vie. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais, je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. Et elle meurt ce 30 septembre, complètement inconnue. On l'enterrera le 4 octobre suivant avec quelques personnes à son enterrement. Ce corbillard qui remontera la grande avenue maintenant qui aboutit à la basilique. Mais il n'y a pas de basilique à l'époque et on fait le virage là-haut pour aboutir au cimetière. Et tout s'arrête jusqu'au moment où paraîtra l'histoire d'une âme, juste un an après la mort de Thérèse, qui va faire connaître Thérèse et qui va déclencher l'ouragan de gloire, où tout ce qu'elle a dit, tout ce que nous avons essayé de voir dans ces étapes de sa vie missionnaire, va se réaliser. Où Thérèse va descendre, où Thérèse va revenir, où Thérèse va parcourir le monde, où Thérèse va aider les missionnaires aussi bien en Laponie qu'en Afrique, qu'en Chine, au Vietnam et ailleurs, et où peu à peu, tous les prêtres et les évêques missionnaires vont faire des pétitions à Rome pour que Thérèse soit déclarée patronne des missions. Et c'est ce qui aboutira en 1927. Et puis, lorsque on prendra conscience de la grande déchristianisation de la France, le cardinal Suard se référera encore à Thérèse de Lisieux et voudra que le séminaire de la mission de France soit fondée à Lisieux. Donc nous pouvons vérifier que tous les désirs qui paraissaient fous, comme elle le dit elle-même, de cette petite carmélite, se sont réalisés et qu'elle a passé sa vie toujours axée sur l'amour de Jésus, sauveur du monde, et donc sur la mission universelle. Comme elle le dit, comment peut-elle aider les missionnaires ? Par la prière et par le sacrifice. C'est par la prière et le sacrifice qu'on peut aider les missionnaires. Manuscrit C 32, lettre 226, manuscrit C 24. Il y a énormément de citations en ce sens-là. La prière, nous l'avons un petit peu vue en disant que la prière, c'est le don de sa vie en union avec Jésus qui donne sa vie pour le monde. C'est l'offrande de nous-mêmes. C'est l'exercice même de notre sacerdoce universel, tel que Lumen Gentium nous l'a redit très fortement. Offrez-vous en hostie spirituelle, c'est le sacrifice spirituel que le Seigneur demande de vous, dit Romains 12:1. Saint Paul nous rappelle que ce que nous allons faire d'essentiel dans notre vie de baptisé, c'est nous offrir avec le Christ pour le salut du monde. Et c'est bien le sacerdoce commun que nous avons reçu à notre baptême, et là qui est pour les hommes et les femmes, et qui est aussi pour le prêtre lui-même, qui exerçant le sacerdoce ministériel au nom du Christ, doit lui aussi, comme baptisé, s'offrir pour le salut du monde. Thérèse nous rappelle, à sa manière, mais une manière qui est devenue universelle, que nous sommes tous missionnaires dans l'Église, et que par notre baptême, dans la prière et sur le terrain, là où Dieu nous a placés, dans les limites même de notre vie la plus simple, en investissant l'amour le plus intense dans les choses les plus quotidiennes, que ce soit le balayage de son cloître, les petites images qu'elle peignait, la réunion avec ses novices, le temps de la cuisine, le temps de la prière au cœur, tout peut être repris par le Seigneur pour le salut du monde. Thérèse, patronne des missions, François-Xavier, patron des missions, c'est toute l'Église qui se révèle au monde, non pas en elle-même, mais comme lieu où l'amour trinitaire est répandu par l'Esprit.
Thérèse de Lisieux et la mission. Thérèse missionnaire, c'était une conférence de Mgr Guy Gaucher, ancien évêque auxiliaire de Bayeux et Lisieux, décédé en 2014.